Christmas, we wish cognitive dissonance. It's a 2017 Christmas.
How can we celebrate this year?
Pass around the food, block out the noise. Mom and dad are broke, but hey, we love toys. Buy him a gift, try to forget your student loans. Will drown you in debt. Keep Uncle Jim at the buffet.
Just don't let him know nephews are gay.
So many refugees, nobody sees. Turn a blind eye, where's the pumpkin pie? Nations divide while we decide the debt we accrue millennials can't undo. Hurricanes and fighting cowardice, while Puerto Rico is still powerless. And morals getting thinner, focus on your dinner. Gotta be a winner, spin your fidget spinner.
Oh, joy to the world.
Et bonjour et bienvenue à épisode 18 de Québécois. Bonjour Charles.
Bonjour Gabriel.
Bonjour, ça fait un bout qu'on s'est pas vu.
Mais hein.
On a décidé de prendre une petite pause durant le mois de décembre. Je pense qu'il se passait trop de choses.
C'était
vraiment, vraiment, vraiment l'enfer. Fait que on vous remercie de votre patience à vous tous. L'extrait que vous venez d'entendre en début d'émission, c'est Melinda Kathleen Reese qui nous parle de ses vœux de Noël 2017. En fait, c'est une compilation de chansons qu'elle a faites. Toutes les voix que vous entendez sont faites par la même madame. Fait que elle a fait un espèce de montage avec sa voix à elle. Très beau, puis très drôle et très à propos pour ce que nous allons discuter aujourd'hui, moi et Charles. Beaucoup d'émissions, beaucoup de journaux, d'articles, tout ça, ils font leur récapitulation sur 2017. Nous autres, on a décidé qu'il y avait assez de récapitulation pour 2017. À la place, on va vous faire nos vœux pour 2018. Puis ça va pas être, bien sûr que vous nous connaissez, on fait jamais rien comme le reste du monde. Fait que nos vœux, ça va être un peu spécial. Puis vous pourrez nous dire si vous êtes d'accord avec ce qu'on vous souhaite, mais on va vous le souhaiter de plein cœur. Et vous allez voir.
En somme, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aborder les sujets dont on veut plus entendre parler en 2018. Les sujets ou les thèmes qui reviennent constamment et dont on n'est plus capable.
Ouais.
Certains ont déjà été abordés dans le podcast, d'autres non, et seront plus à propos en 2018, parce que c'est un peu illusoire de penser qu'on n'entendra plus parler, parce que je pense plutôt qu'on va être submergé de ces sujets-là chaque jour de 2018.
Ouais, je pense que ça s'enligne pour ça. On n'a pas... comment je pourrais dire ça? On n'a pas fini d'en entendre parler. Si la tendance se maintient, on va se faire casser les oreilles avec toutes ces choses-là encore.
Donc, commençons par le gros sujet, Donald Trump.
Oh. Je suis plus capable. Moi, je suis plus capable. C'est impossible. Moi, j'aimerais juste, là, si on pourrait faire disparaître tout ça de la map, là, de tous nos médias, là, ça me ferait beaucoup de bien, je pense, dans notre sphère médiatique.
Je comprends qu'il est très polarisant, puis qu'il fait vendre bien des clics, mais c'est que c'est un chef d'État d'un autre pays. Je me souviens de l'époque lointaine où la politique américaine, c'était un segment en fin de bulletin de Joyce Napier, puis de La Tendresse, qui disait... Et pour les nouvelles américaines, puis ça a duré 5 minutes, puis c'était correct, c'était suffisant.
Ouais.
Aujourd'hui, ça commence, le bulletin de nouvelles commence avec un tweet de Donald Trump.
Ouais.
Je ne comprends pas l'obsession des médias canadiens à parler de politique américaine, et même des Canadiens, là, durant la campagne en 2016, il y a des Canadiens qui se faisaient refouler à la frontière parce qu'ils voulaient aller manifester contre Donald Trump. C'est pas ton pays! C'est pas un droit que t'as d'aller aux États-Unis. Si tu te poses la question... puis que tu annonces ouvertement aller faire du trouble, ben c'est sûr qu'ils vont te bloquer à la frontière.
Ben oui. On le fait nous autres aussi, d'ailleurs.
On dirait que c'est un comportement... J'ai un peu de misère à me l'expliquer encore, mais c'est comme si les gens percevaient que ce qui se passait aux États-Unis se passait également au Canada, puis qu'il fallait s'impliquer dans la politique américaine.
Moi, je pense pas. Je pense que ça fait partie de cette espèce de fausse... croyance-là qu'on a au Canada, qu'on est comme tellement gentil, puis tellement meilleur. Puis là, on a un président aux États-Unis qui bonifie un peu cette vision-là du Canada. Tu sais, y a beaucoup d'articles qui passent en ce moment, tu sais, qui mettent Justin Trudeau à la tête des leaders internationaux parce qu'il est bien fin, puis tout. Puis c'est incroyable. Moi, je parle avec mes amis aux États-Unis qui sont américains, puis ils sont tellement jaloux de Justin Trudeau pour eux autres, là. C'est comme, c'est un dieu, Justin Trudeau. Puis c'est pas juste aux États-Unis. Dans le reste du monde, il est vraiment vu comme un espèce de sauveur politique. Je pense que c'est... Tu mets tout ça ensemble, là, puis ça fait que ça nous fait un petit velours de voir que les Américains sont dans la marde. C'est comme le fun.
C'est ça, l'affaire, c'est qu'ils sont pas vraiment dans la marde. Les données économiques sont bonnes. Tout se passe relativement bien.
Jusqu'à maintenant. Ça... Parce qu'il n'y a rien fait encore. Là,
il a quand même pris des bonnes décisions. On y reviendra. Là. on y reviendra. Moi, je suis pas si... Toi, t'es assez...
C'est
ce que je te fais mal au cœur, Gab.
Ça fait pas juste mal au cœur, ça fait mal partout.
C'est correct que t'as mal au cul avec ça. Le point, c'est que je l'aime pas spécialement, mais c'est pas l'antéchrist non plus. Hein, c'est pas l'incarnation vivante du démon.
Ben, tu vois, moi je serais prêt à dire que c'est aussi proche qu'on va l'avoir. entre lui, puis Duterte, puis Poutine, je trouve qu'ils font un beau trio. Là, fait que...
Ben, écoute, on aura peut-être l'occasion d'en revenir sur le mandat de Trump, mais encore une fois, c'est que c'est un autre pays. Moi, Trudeau, il se passe des affaires à Ottawa, donc j'aimerais que les journalistes parlent davantage. Ouais. J'aimerais ça que les journalistes commencent à faire leur job, oui. Puis qu'ils nous parlent du Parti libéral, qu'ils nous parlent du processus de nomination des juges, des commissions parlementaires, mm-hmm. des nouvelles lois qui sont passées, mm-hmm. des motions qui sont passées. Il y en a eu de l'action là, au ouais. Canada. Puis à date, les quotidiens parlent très peu de ça en profondeur.
Oui, c'est vrai ça. Parce qu'on est trop occupé en fait, à nous donner la poudre aux yeux là, avec les false flags des États-Unis, les histoires de Donald Trump puis tout ce qui se passe là-bas.
Ça, c'est récent. Même du temps d'Obama, on parlait pas tant que ça des États-Unis.
Pas comme que c'est maintenant.
Du temps de Bush, on en parlait très peu, comme oui, somme toute. On en parlait quand il y avait des décisions commerciales. Mettons sur la question du bois d'œuvre ou des choses comme ça. Oui. On en parlait quand c'était épisodique et que ça concernait directement des Canadiens. Oui. On parlait pas de chaque pérégrination, de chaque formation politique. Un peu plus, il y avait une soirée électorale au Canada. Ouais.
Non, c'est
tout à fait vrai. Aberrant. Je comprends que c'est un partenaire d'affaires important, puis que c'est notre voisin, puis c'est un gros pays, mais tabarouette, c'est toujours bien un autre pays. J'aimerais ça qu'on parle du Canada, qu'on parle du Québec, qu'on parle des autres provinces, des choses qui sont proches de nous, puis qu'on est capable d'avoir sur lesquelles on est capable d'avoir une influence.
Je pense qu'il se passe suffisamment de choses en ce moment dans les sphères politiques canadiennes et québécoises et même locales qu'on n'a pas besoin d'aller puiser dans les États-Unis. Là. Puis il n'y a pas de mal à ce qu'on soit tenu informé des effets majeurs de ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est parce que ça nous affecte quand même indirectement parfois, mais pas au point où c'est là. J'aimerais qu'on arrête là, de mettre ça à la une de toutes les nouvelles tout le temps, puis à chaque fois qu'il tweet une niaiserie. Vous avez pas compris, là, son tweetage, là, c'est un appât, là. Puis tout le monde mort. Tout le monde
mort. Oui, le gars est brillant. Là. C'est hilarant à regarder aller.
Tu vois, là, c'est là qu'on est pas d'accord. Je suis pas sûr qu'il est si brillant que ça, moi, là.
Mais que moi, je le trouve divertissant à regarder aller. C'est mon biais personnel. Je trouve ça donc drôle de voir, mettons, des artistes se faire complètement ridiculiser sur la place publique parce qu'ils s'insurgent contre quelqu'un qui a pas rapport avec eux autres pour deux scènes. Quand ils menaçaient toute la légion d'artistes d'Hollywood qui menaçaient de quitter les États-Unis si Trump était élu, puis ils sont encore aux États-Unis. C'est ça que je trouve divertissant. C'est que, comme tu dis, les gens morts à l'hameçon, puis ils se font avoir. Puis Trump est dans son bureau, puis il est comme « I'm still president! »
Ouais, mais ça, il sera peut-être pas pour longtemps, par contre. Là,
écoute, si les démocrates continuent à se comporter comme ça, moi, il y a des bonnes chances de gagner aux prochaines élections.
Je sais pas sûr. Moi, là, par contre...
On verra la mi-mandat, mais...
Anyway, on veut plus parler de Trump, ouais. Fait qu'on va arrêter. Ouais. No more Trump!
Surtout qu'au Canada, là, on a quand même bien des affaires avec Justin Trudeau. Là. Tout son automne a été assez périlleux, en fait, sur le plan des relations publiques.
Ça allait
là.
Bien, en fait, jusqu'au mois d'octobre.
Il fallait bien qu'on ait fait un podcast sur sa dernière réalisation.
Ben là, on est à mi-chemin dans son mandat, je pense.
Oui, ouais, ça. Il a fait 2 ans. Puis là, peut-être qu'on fera une mise à jour sur le podcast qu'on avait fait au mois d'août, je crois. Là. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé entre-temps. Il y a eu beaucoup de nouvelles informations.
Il y a une session parlementaire.
Oui, ben là, ils sont en congé, mais ça va reprendre en janvier. Là. Il y a eu bien des affaires qui sont votées et qui, moi, me préoccupent pour la vie démocratique canadienne.
Oui. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour 2018, notre premier souhait, plus de Trump aux nouvelles.
Ou si on en parle, c'est dans un contexte de la réalité politique canadienne. Hein? Ça, ouais. C'est correct de parler de Trump, c'est un chef d'État. Si Macron vient au Canada, ben on en parle. Ben ouais, mais on parle pas constamment de ce que Macron fait en France.
Oh mon Dieu, donne-lui pas l'idée. Parce que ça pourrait... ça m'étonnerait pas. Des fois, je trouve qu'au Québec, on est souvent beaucoup fasciné par les affaires qui se passent en France. Fait que... En tout cas. Moi, mon prochain souhait pour 2018, j'ai vu un truc passer aujourd'hui sur Facebook. C'est un billet de l'actualité. Le fameux magazine L'Actualité qui a mis une autre cochonnerie sur Facebook. Ils ont mis une liste. En fait, c'est un de mes amis linguistes. J'ai eu le plaisir de travailler avec des linguistes pendant plusieurs années. Fait que sur Facebook, je me trouve souvent avec des articles par rapport aux langues. Puis aujourd'hui, c'était un article des futurs mots qu'on risque de voir beaucoup l'année prochaine, parce que c'est des mots qui sont comme en tendance en ce moment ou qui semblent vouloir monter en popularité. Et sur la liste, il y avait le mot numéro 5, puis j'ai presque perdu, vomi mon déjeuner en lisant le mot, fait que pour un public averti, là, je... c'est blantriarcat. On entend déjà que on va chercher le mot blanc, le mot patriarcat, on poutine ça ensemble, puis ça fait du blantriarcat. Terme émergent pour allier le concept de la suprématie blanche et celui du patriarcat. Oh boy, que les féministes vont avoir du fun avec
ça. C'est très orwellien, tout ça, j'aime ça.
Je suis plus capable. Moi, ce que je voudrais pour 2018, là, c'est qu'on arrête. Faut arrêter ce niaisage-là des termes, puis on met des labels sur tout. Fait que dans cette veine-là, là, moi, ce que je veux plus, je veux pas entendre le mot non-binary. Je veux pas entendre le mot blantriarcat. Mettrez patriarcat là-dedans, t'as qu'à faire. Je suis plus capable. On est rendu tellement... C'est comme une guerre des mots. On essaie de contrôler comment les gens s'expriment. On s'offusque à tout. On fait les victimes à chaque minute qu'on peut. J'aimerais qu'on arrête. Puis là, s'il y a des journalistes qui nous écoutent, là, comme le tweet qui a fait la liste de l'actualité, là, t'avais un choix matin dans ton article. T'aurais pu ne pas mettre ce mot-là. Mais pourquoi tu l'as mis? Tu le dis toi-même. Mot surtout employé dans les cercles d'initiés pour l'instant, moins de 1500 entrées sur Google. OK, 1500 entrées sur Google, ça, c'est presque rien. On s'entend, là, sur les milliards de pages qui existent, c'est même pas un 0,1%. Fait que je vais dire que c'est peut-être un peu un manque d'éthique journalistique, je te dirais, de mettre un mot comme ça là-dedans. Mais ça, c'est mon opinion. Fait que j'aimerais qu'on pourrait exprimer ou que les journalistes pourraient arrêter de faire ce genre de manigançage-là pour contrôler la population avec leur terme incendiaire pour semer une espèce de réaction puis de générer des clics. Fait que tout ça ensemble, je vous souhaite pas de blantriarcat. Pour 2018, c'est mon premier souhait pour vous autres cette année.
On l'a coupé au montage, mais Gab a punché un mur.
Moi, c'est mon proprio, il va pas m'aimer.
tous ces mots-là qui viennent en somme culpabiliser des individus pour un crime collectif qu'on leur attribue, c'est l'essence même du racisme.
Ouais.
Et ça me surprend à chaque fois pour des groupes qui sont supposément opposés aux étiquettes, hein, qui veulent pas être réduits à une étiquette, hein. C'est les premiers à créer de nouvelles étiquettes, une pluralité d'étiquettes, voire même une infinité d'étiquettes. Et ça, c'est une des lois qui me préoccupait beaucoup. On en a parlé un petit peu, ouais, d'ailleurs avec C16. C'est que ne pas employer certaines de ces étiquettes-là va être considéré comme un crime fédéral. Donc, où ça va s'arrêter, cette histoire-là, franchement, je le sais pas, mais je vois pas qu'est-ce qui va sortir de positif dans la démultiplication d'étiquettes identitaires attribuées à des individus qui vont essentiellement servir à les censurer, à limiter leur liberté individuelle et à les culpabiliser sur le plan collectif pour quelque chose qui objectivement rien fait, là.
Ouais.
Moi, je suis un homme blanc, puis j'ai absolument rien fait de criminel ou de répréhensible sous le plan des droits humains. Absolument rien. Puis quand quelqu'un me dit « Oui, mais t'es un homme blanc, t'as pourra ton opinion », ma réponse, là, man, heureusement qu'on est dans un pays de droit. Que sinon, la première chose que je ferais, c'est les étamper dans un mur. Et mais c'est quoi ton problème? Hein? C'est insupportable, l'espèce de raccourci intellectuel que les gens font pour limiter une conversation à rien sous prétexte qu'une personne fait partie d'un groupe identitaire qui est considéré comme voyou. Mmh. Et présentement, ben, les hommes blancs, dans le même panier que c'est des crimes contre l'humanité, juste par leur simple existence. Aucune considération pour leur contribution individuelle à la société. Ta peau est blanche, t'es un criminel. Tu sais, quand on voit les trocs de la paix fauchés du monde, on dit « pas d'amalgame, pas d'amalgame ». Je suis comme « d'accord, pas d'amalgame ». Mais ce genre de discours-là, c'est un amalgame qui est au fondement du discours
raciste.
C'est
la même affaire!
Oui, mais c'est ça, on avait parlé dans le podcast sur les droits des hommes, c'est au fond le résultat de la doctrine du féministe de l'intersectionnalité. Et comme les hommes blancs sont au-dessus de la pyramide de l'oppression, mais ils peuvent pas être victimes de discrimination d'aucune façon. Donc ça vient légitimer, moi, ce qui m'apparaît être un discours haineux à l'égard des blancs, des hommes, de façon plus générale. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus moyen d'avoir une conversation. Ça m'amène à mon deuxième vœu. Pour moi, là, c'est
le troisième en tout.
C'est notre incapacité à avoir une conversation sur des sujets qui sont, disons, délicats ou sensibles. Et vous avez peut-être vu ça, là, au début du mois de décembre, il y avait plein de guides qui sortaient sur comment éviter les conversations politiques avec les membres de votre famille autour de la table. Fait qu'on dirait que ça fait comme quoi, 40 ans qu'on dit au monde d'arrêter de parler de politique? Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est incapable d'en parler.
Ouais.
Alors j'aimerais plutôt que les journalistes disent « Voici comment vous pouvez avoir une conversation productive, respectueuse et qui va faire avancer votre pensée et celle des autres. » Comment une société peut avancer si on refuse d'aborder des sujets parce que chacun reste campé sous ses positions? C'est par l'échange avec les gens qu'on grandit. Et des fois, ils peuvent nous apprendre des choses. Hein, on n'a pas tout le temps raison. Hein, on n'est pas le pape. J'aimerais ça, là, qu'on puisse réintroduire le discours civilisé entre les personnes, puis qu'on puisse aborder des sujets sans qu'on ait un paquet de personnes qui courent vers leur safe space, puis qui soient triggered, puis qui crient au discours haineux à chaque fois qu'une personne cherche à aborder un sujet sérieux. Pour moi, il faut qu'on puisse aborder ces sujets-là, puis on dirait qu'il y a de moins en moins de place, comme on le mentionnait, là, l'espace dans lequel on peut se tenir est de plus en plus mince. C'est quasiment, en fait, une lame de rasoir aujourd'hui. Puis si tu bouges un petit peu trop, là, ben, tu te fais couper.
Mm-hmm. Mais ça, pour arriver là, je pense qu'il faudrait penser ou pas ignorer nos systèmes d'éducation qui sont largement affectés par ça, parce qu'on n'a plus le droit de discuter de sujets X.
Ça commence dans les foyers. C'est quelque chose qui est famille par famille. C'est une responsabilité personnel que d'apprendre à son entourage immédiat comment avoir une conversation civilisée. Tu sais, puis même si une conversation se termine par ben on est d'accord d'être en désaccord, c'est une bonne conversation.
Ouais.
Parce que la personne ne repart pas totalement comme elle l'était avant la conversation. Puis des fois il y a des sujets là sur lesquels il faut revenir souvent pour changer d'avis.
Mm-hmm.
Puis moi je suis d'avis que tous les gens sont généralement, là, à moins d'une condition particulière, là, sont fondamentalement convaincables. C'est-à-dire qu'à force du temps, là, si c'est bien fait, il y a moyen d'arriver à un consensus par la conversation, par la discussion. Puis ça, c'est le dernier filtre de la civilisation. Si ça part, on est tous en train de s'appocher à qui mieux, là. La conversation puis la qualité du discours, c'est dépendant de notre capacité à nous exprimer librement. Puis on l'a mentionné dans le podcast sur les hommes. il y a plusieurs lois qui ont été votées au Canada qui viennent restreindre la liberté d'expression, qui viennent restreindre le discours qui peut être utilisé, le discours qui est considéré comme acceptable. Et
quel mot tu peux utiliser?
L'histoire de Lindsay Shepherd de l'Université Waterloo nous montre que cette culture du politiquement correct qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, c'est venu maintenant corrompre le milieu universitaire.
Je ne suis pas certain, parce que dans le cas de Lindsay Shepherd, tout s'est bien terminé, en fin de compte. Elle a eu raison,
oui, mais
elle n'a pas perdu sa job, le professeur s'est excusé. Fait qu'en bout de ligne, c'est quand même dans cette situation-là, voyons, la liberté d'expression ou de la liberté de penser, même dans ce cas-là, qui a eu raison, parce qu'elle n'a pas eu de séquelles, en fin de compte. Ça a été compliqué, en bout de ligne, elle a eu raison. Elle a juste fait face à un prof con qui a dit des conneries.
Qu'est-ce qui se serait passé si elle ne les avait pas enregistrés?
Je sais pas.
Hey,
je sais pas. Moi, je travaille pas pour Jojo Savard.
C'est une question lourde de conséquences.
Je peux pas prédire le temps.
C'est une question lourde de conséquences qu'un milieu universitaire soit rendu au point où les étudiants puis les employés doivent s'enregistrer pour se protéger. Ça montre que le milieu universitaire, à mon avis, là, est sur une tangente très dangereuse. Et je l'ai vécu avec une autre universitaire. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, l'insolente linguiste.
Ah, mon Dieu.
Je me suis pogné un peu avec elle sur Facebook.
Ça, c'était glorieux.
C'était quelque chose, mais... Et pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de répréhensible. Mais au final, elle m'a banni de ta page Facebook en me traitant de raciste, sexiste, xénophobe. Toutes les insultes traditionnelles qui veulent rien dire.
Méchant homme blanc que tu es.
Oui, et tout ce que je disais, essentiellement, c'est que la qualité du discours, hein, le contrôle du langage par la puissance publique, l'État, s'est accru récemment, et ça prenait la forme, et ça prenait différentes formes. Par exemple, il y a la position de la FFQ qui veut militer pour éliminer la maternité. Hein, comme quoi, ce serait transphobe qu'il y ait des départements de maternité dans les hôpitaux, puis il faudrait plutôt référer à des personnes enceintes. Ça, c'est encore une fois une remodulation du vocabulaire courant. À des fins politiques, là. Les mots, c'est des outils pour entrer en communication les uns avec les autres.
Je sais pas si ça va marcher, ça. Penses-tu que les femmes enceintes vont arrêter de dire qu'ils sont des femmes enceintes? Je crois pas, là.
C'est ça qui teste les limites en ce moment. Mais c'est quand même une tentative.
Ça va pas marcher. Ça, là, c'est de la foutaise. Ils perdent leur temps, là. Carrément, là, ils perdent leur temps. C'est aussi simple que ça. Ça, moi, j'y crois pas. Des personnes enceintes. Si t'es enceinte, là, je regrette. T'es une femme. OK? C'est aussi simple que ça.
C'est hautement transphobe, qu'est-ce que tu me dis?
Ah, hautement transphobe, de la merde. Hey, moi, j'ai des amis trans, for fuck's sake. C'est pas ça qui est. La transphobie, c'est pas ça. Moi, c'est pas de même, je vois ça. Transphobie, là, c'est quand tu vois une personne trans puis tu la traites pas comme une personne normale ou que tu vas lui nier ses droits ou que tu vas l'abuser. Ça, c'est de la transphobie. Mais là, de penser qu'une femme qui est enceinte, c'est une femme, c'est être transphobe, fuck you! Non!
Oui, mais il y a Québec solidaire qui a renchéri dans cette lignée-là.
Qui mange de la merde,
Québec solidaire. Trudeau a renchéri dans cette lignée-là. Il y a un mouvement de fond qui cherche à baliser de façon très serrée ce qui constitue un discours acceptable en société. Et ça, c'est une tendance qui me préoccupe. Et le cas de l'insolente linguiste, c'est quand même une membre du corps professoral de l'Université Laval. Moi, je considère qu'elle a une responsabilité sur le plan éthique et professionnel.
De plusieurs niveaux. Premièrement, elle se présente comme une prof de l'Université Laval. Donc, en faisant ça, tu représentes ton employeur. De quel droit, après, elle se donne de se mettre sur ces grands chevaux comme ça? C'est délicat, là. Moi, je sais qu'avec mon employeur, j'ai même pas le droit de dire sur le podcast pour qui je travaille. Mm-hmm. Parce qu'ils veulent pas qu'on associe ma personnalité avec le travail. Puis c'est normal. Moi, je représente pas la corporation. Puis elle, ça semble être correct. Là, deuxièmement, c'est comment elle va traiter ses étudiants qui ont des opinions dissidentes.
Exact.
Puis c'est là qu'il y a l'inquiétude.
Et c'est ça qui est arrivé à Lindsay Shepherd.
Mais sauf que ça, moi, je te dirais, c'est pas nouveau de cette semaine. C'était comme ça quand j'allais à l'université, dans les débuts des années 90. Il y avait des profs ridicules dans ce temps-là. Puis il y a des profs qui t'étais pas d'accord, puis il y avait des façons de faire, de contrer leur position par des canaux officiels. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas certain encore. Moi, je sais, à chaque fois qu'on en discute, là, toi, tu es convaincu que c'est,
c'est de ce côté-là. Je suis un universitaire, gars, puis je le vois sous plan personnel depuis des années et ça l'a changé.
Oui.
Ça l'a changé. Je compare, mettons, 2010, quand j'ai commencé, versus aujourd'hui, c'est pas la même game.
Mais moi, je pense, je ne suis pas convaincu que c'est aussi ce bout-là que tu le crois. Je pense qu'il y a certaines universités que c'est clairement plus comme ça, mais je ne suis pas sûr que c'est comme ça partout.
C'est pas tant une question d'université qu'une question de faculté.
Peut-être, ouais.
Les sciences de la nature sont pas encore corrompues par... par son niaisage.
Ils ont des mentalités logiques, scientifiques, mais basées sur les faits, puis basées sur la recherche.
Quand tu regardes les facultés de sciences humaines, présentement, là,
ouais, on oublie ça.
C'est dommage, parce que j'ai un grand respect pour les sciences humaines. non, mais sérieusement...
Tu peux dire ça sans rire,
oui. Non, mais c'est-à-dire que j'ai aucun respect pour les membres des facultés de sciences humaines que je trouve qui ont corrompu ce qui était un édifice de compréhension d'expérience humaine extraordinaire.
OK.
Mais ils ont renoncé à leur charge que d'éduquer la population, honnêtement, sur l'expérience humaine. Ouais. Ils font plus ça. Maintenant, c'est très pratique, l'université, c'est de l'endoctrinement. Dans plusieurs facultés, là, c'est très préoccupant. Puis je te le dis, je le vois, c'est mon expérience personnelle, mais le cas de Lindsay Shepherd, quand je l'ai vu sortir, je dis « Ah, ben il y en a plein d'autres. »
OK.
Puis, et c'est très, très préoccupant. Puisque les universités, c'est le fondement de notre société, là. S'il y a bien une place d'université, on le dit, où on devrait pouvoir avoir des conversations civilisées, c'est bien là. Mais on dirait que ça passera pas comme ça. Mais j'aimerais ça qu'en 2018, les universités regardent et fassent un auto-examen en disant « Oh, peut-être qu'on est allé trop loin avec la rectitude politique. » Les universités ne sont plus les gardiennes de la civilisation dans l'état actuel.
Ouais.
Et c'est fort regrettable parce que c'était leur avantage concurrentiel sur le marché de l'information. Moi, aujourd'hui, maintenant, tu peux aller prendre la même information moins chère sur Internet.
Moi, je me demande si c'est pas en partie les forces économiques de qui ont rendu les universités un peu comme ça, parce que là, maintenant, ils dépendent tellement des revenus des anciens et anciennes, des dons, qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de controverses-là sur leur campus pour en risque de fâcher leurs donateurs. Fait que je me demande si c'est pas un peu ça aussi qui vient jouer dans l'équilibre, parce que, tu sais, je sais, par exemple, quand je travaillais à McGill, je l'ai déjà dit, tu sais, c'est des centaines de millions de dollars là, qui rentrent à chaque année pour en don. C'est pas négligeable sur un budget d'université. Fait que il faudrait peut-être regarder ça à plusieurs facettes. Je pense que c'est peut-être ça ça, c'est pas le symptôme, c'est l'effet, je te dirais, de ça. En tout cas, je pense que c'est pas aussi simple que juste...
Ah non, c'est sûr que c'est une question complexe, mais l'important, c'est que le résultat à la fin, c'est que les jeunes et les moins jeunes qui fréquentent l'université sortent de là avec une meilleure lecture et une meilleure compréhension de l'expérience humaine. Puis présentement, elle semble complètement biaisée sur le plan politique.
Ouf!
Oui, je suis très sévère à la garde de l'université. Puis c'est dommage parce que je suis un universitaire et ça me dérange grandement. Grandement. Là. C'est quelque chose qui vient me chercher et je suis ça avidement. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, en fait. Ouais. Donc, pour 2018, j'aimerais ça que les universités prennent leurs responsabilités. Sinon, ça va être présenté sans autre commentaire, mais en 2018, j'aimerais ça qu'on fasse pas d'article sur le fait qu'il va y avoir du trafic aux douanes avant les vacances de construction. on le sait. on le sait.
Ouais.
À la limite, il pourrait juste faire quelque chose d'artistique avec ça. Juste faire, mettons, un plan séquence d'un drone qui survole les douanes.
Ah non, il se ferait shooter par les Américains. Oublie ça.
Mais le point, c'est qu'on le sait. C'est un peu une information d'ordre public, disons, l'ordre des dermatologues qui fait une sortie pour la crème solaire au début de l'été. Ça, il faut le rappeler au monde parce qu'ils n'en mettent pas. Moi-même, j'ai eu ça, mettre de la crème solaire. Pas bon, on me chicane quand j'en mets
personne
pas.
Personne qui aime ça, mettre de la crème solaire.
C'est même pas d'ordre public, on le sait, il y a du trafic aux douanes avant les vacances de construction. On le sait. Vous n'avez pas besoin de faire une chronique là-dessus chaque année. J'aimerais ça en 2018 être épargné, mais je ne le serai pas, évidemment. 2018 va être une année intéressante parce qu'il va y avoir des élections provinciales au Québec.
Oh, j'ai déjà hâte.
Et là, ce qui m'énerve un petit peu, là, c'est que dès qu'on arrive dans cette période un peu préélectorale, dès que le gouvernement fait une annonce, que ce soit une mesure ou une loi, ou un règlement, ou une motion, elle va toujours être taxée de d'électoraliste.
Ouais.
Comme pour si on voulait réduire sa portée.
Même quand ils sont en train de faire des choses qui étaient sur leur programme électoral au départ.
Oui.
Okay, là, là, ils se traitent d'électoraliste, dire ben non, enfin, ils font leur job.
Mais ça, c'est en somme un procès d'intention.
Ouais.
C'est qu'on leur attribue des intentions malveillantes ou trompeuses et que purement des fins électoralistes, très court terme, ils vont prendre une mesure à laquelle ils ne croient pas vraiment. Ça vient diminuer la portée de leur action, ça vient diminuer la qualité de leur intention, et au final, c'est complètement improductif. Si vous n'êtes pas d'accord avec la mesure, dites-le pourquoi. C'est pas parce que ça se fait un an avant l'élection que c'est électoraliste. Hein? C'est... Ou, à la limite, moi je ne serais pas contre, mais fermer le gouvernement un an avant les élections. Hein? On va sauver de l'argent, puis je suis pas sûr qu'il y aura tellement d'affaires qui se feront pas. Là. Le gouvernement, il roule quand même bien.
Mais oui. Mais je trouve que c'est... Ça, encore une fois, ça vient de l'éthique journalistique, je pense. Puis c'est ça, le... C'est comme on a vu avec l'élection de Valérie Plante à Montréal. Les médias, ils prennent des décisions pour nous. Puis c'est pas ça le rôle des médias. Le rôle des médias, c'est pas de prendre une décision, c'est de nous présenter les faits, puis de nous donner toute l'information qu'on a besoin pour qu'on comprenne ce qui se passe. Puis là, j'ai l'impression que dans ces situations-là, c'est pas exactement ça qui se passe. Puis c'est frustrant, parce que c'est justement, on fait un procès d'intention, on met des mots dans la bouche des gens qui ont jamais rien dit, ou qui n'ont pas dit ce qu'on les, de ça, on les accuse. Donc, pour moi, je trouve que c'est problématique, puis j'aimerais que ça arrête. J'aimerais que, encore une fois, là, c'est souvent ça qui revient, c'est je voudrais voir une éthique journalistique un peu plus comme qu'on avait peut-être 50 ans passés. Tu sais, qu'on vérifie nos faits, qu'on n'écrive pas n'importe quoi, puis que les gens qui ont des tribunes d'opinion, là, comme les Richard Martineau de ce monde, puis les Martin Boccoté, puis...
Mathieu.
Mathieu Boccoté, tu vois, je l'aime tellement. Patrick Lagacé, me semble aussi. En tout cas, il y en a plein, là. Vous les connaissez. Ces gens-là, j'aimerais qu'il y ait... que dans cette même ligne-là, qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Si tu dis qu'il y a quelque chose dans la société, ben donne un peu de substance. T'sais, dis pas n'importe quoi. Nous autres, on le fait dans nos interventions. Quand on a des statistiques ou des articles, on vous donne les liens. Ils sont toujours en bas des émissions sur notre page web. Donc, pourquoi ils font pas la même chose? Takamo, c'est... En fait, c'est parce que je sais pourquoi ils le font pas. C'est parce qu'ils n'en ont pas. Ils parlent à travers leur chapeau. Fait que pour 2018, de l'éthique journalistique, s'il vous plaît.
En fait, ce que tu décris, l'espèce de journaliste axé sur les faits, un peu à la sauce qu'il y avait dans les années 60, là, je pense pas que ça existe aujourd'hui.
Non, ça existe plus.
Journalistes...
En fait, c'est très rare. À part peut-être un ou deux podcasts dans la marge, là, j'en connais pas beaucoup.
Ben, c'est-à-dire que tous les journalistes ont un biais. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas transparents avec ce biais-là.
Je pense que nous autres, on est transparents. Là. On ne se dit pas journalistes non plus.
Non. Fait que... mais c'est-à-dire que moi, ce qui me préoccupe, c'est pas tant que les journalistes aient un biais, parce qu'ils en ont toutes.
Ouais, mais...
Le but, c'est qu'il y ait une diversité dans ces biais-là.
Qu'il y ait une diversité. Montre-nous l'autre côté aussi. Puis aussi, sois transparent avec ton biais. Dis-nous qu'est-ce que tu penses. Puis dis-nous pourquoi tu penses ça. Puis après ça, ça me donne la chance d'aller voir de l'autre côté, puis aller voir quelqu'un qui pense le contraire, puis faire le contrepoids.
Absolument. C'est quelque chose qu'on voit dans la couverture de la politique canadienne. Jamais j'ai vu aussi peu de couverture. Si on compare au temps où Stephen Harper était premier ministre,
ouais.
La politique canadienne était très, très couverte et il sautait sur n'importe quelle occasion qu'il y avait de pourfendre Stephen Harper. Et je pense que c'est entre autres pour ça qu'il s'est lui-même distancé des journalistes. Parce que je me souviens, en 2006, il participait à des entrevues, il allait jaser avec les journalistes, il était ouvert. Et plus les années avançaient, plus il restait fermé parce que ce qu'il voyait, c'était constamment de la confrontation avec les journalistes. Il n'était pas intéressé à... fournir une information diversifiée. C'était toujours « Stephen Harper est un mange-merde ». Et maintenant que Trudeau est au pouvoir, c'est comme s'il avait arrêté de couvrir la politique canadienne puis il se ramassait sur Trump.
Ouf, moi, je pense qu'on ne suit pas les mêmes journalistes parce que moi, je vois autant de marde contre Trudeau que j'en voyais contre Stephen Harper.
Tu penses?
Ah oui.
Moi, il me semble que Trudeau, on en parle bien moins que ce qu'il y a, de ce qu'on parlait à propos de Stephen Harper.
Tu trouves? Moi, je trouve qu'on en parle autant. C'est pas le même ton, je te dirais. Puis c'est pas les mêmes journalistes non plus. Les articles viennent pas des mêmes sources. Mais on en parle quand même. Je pense que Trump, on l'a dit tantôt, prend trop de place médiatique. Puis ça enlève peut-être une certaine partie de la couverture qui devrait aller à notre gouvernement qui sont vers Trump. Mais moi, je vais te dire, je peux ouvrir mon Facebook à n'importe quel moment, puis je vais voir des articles du National Post, du Globe and Mail, surtout du National Post, qui détruit Trump jour après jour après jour. Fait que, pas Trump, pardon, qui détruit Trudeau.
National Post fait figure d'exception. Je suis pas loin de m'abonner au National Post. Ouais,
National Post aussi, c'était les pro-Harper. Okay? On s'entend, là, qui ont tout mal au cul de perdre leurs élections contre Trudeau. Mais ils ont toujours été conservateurs. Ça changera pas.
Mais ils font quand même une bonne couverture de la politique canadienne. Mais quand je veux avoir des nouvelles du Canada, c'est vers eux que je me tourne la part du temps.
Il faut faire attention. C'est comme n'importe quel journal. Je n'irai pas lire le Journal de Montréal pour avoir l'opinion séparatiste parce que je trouve que c'est trop évident ce qu'ils font. Mais le National Post, je trouve que c'est la même affaire. C'est tellement conservateur que c'en est risible par moment. Donc, moi, je trouve qu'il faut faire attention avec le National Post.
Encore une fois, tous les journalistes ont leur billet, tous les quotidiens ont leur billet. Et ça, on ne s'en sortira pas. Ce qui est important, c'est qu'il y a une diversité dans les opinions exprimées. Ouais. Puis que, ultimement, le consommateur puisse aller s'exposer à une pluralité d'opinions. Tu sais, quand on parlait là, de la diversité des identités, là, l'intersectionnalité, on dirait que toutes les formes de diversité sont souhaitables pour certains groupes politiques, sauf la diversité d'opinions. Alors que c'est pourtant celle qui est la plus fondamentale. Parce que les individus, là, je veux pas qu'ils se définissent par des attributs identitaires, je veux qu'ils se définissent par leurs idées puis leurs valeurs. Parce qu'ultimement, c'est ça une société. C'est des individus qui se mettent ensemble avec des valeurs communes puis qui essaient d'aller à une place ensemble. Mm-hmm. Avoir un héritage commun, c'est pas vraiment. C'est intéressant, mais c'est pas si important que ça. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir des valeurs communes parce que ça vient ajouter une composante de prédictibilité des comportements. Quand les gens ont des valeurs similaires aux tiennes, tu peux présumer de leur comportement futur et leur faire confiance et avancer. Autrement, c'est là que les suspicions commencent à monter, qu'il y a du ressentiment, de la ségrégation. Et les étiquettes viennent juste exacerber cet effet-là.
Moi, si je te dirais, si tu veux une bonne source pour les nouvelles nationales, là je parle canadienne, je te dirais, il faudrait aller voir Chantal Hébert du Toronto Star.
Oh oui, très bonne.
J'adore cette chroniqueuse-là. Je trouve qu'elle a le don de présenter les faits. C'est toujours très intelligent ce qu'elle raconte. La seule reproche que j'y ferais, c'est qu'elle travaille pour le Toronto Star.
Elle n'était pas chroniqueuse aussi pour le Devoir?
Il me semble que oui. Ça se peut.
Elle l'était par le passé.
Elle a déjà été. Elle fait souvent son apparition comme tête parlante à CBC. Puis,
même à Radio-Canada, je l'ai vu souvent passer avec Michel David.
Oui, parce qu'elle parle en français pas en anglais. Fait qu'elle est une des seules journalistes, en fait, qui fait tous les médias du Canada. Elle a un très bon. Elle prend bien le pouls, je trouve, du Canada, puis elle voit beaucoup de choses, puis ça fait longtemps qu'elle fait ça, elle connaît très bien sa matière. Moi, c'est drôle, je garde, elle a sorti un article le 25 de décembre, puis le titre, c'est « Trudeau may lose some like-minded premiers in 2018 ». Fait que, tu vois, s'il y en a une, là, tu regardes. Tiens, Trudeau, les libéraux, bonjour, hi. Là, elle parle du prochain chef de justice, sacrifier un... Ouais, fait que c'est ça. Elle couvre vraiment bien, en fait, la politique nationale.
Mmh. Puis, oui, oui.
Puis comme elle comprend très bien la politique québécoise, en plus, j'ai l'impression que c'est une séparatiste. Moi, quand
j'allais... Tu peux écrire un livre là-dessus.
Oui.
Excellent livre, d'ailleurs.
Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu.
Je te le passerai.
Ah oui? Ah, oh, good. Nice. On prochia encore.
Ben, c'est ça. Il faut être bien informé pour bien chialer.
Ben oui.
Mais tu vois, moi, du National Post, j'ai appris à aimer lire Christy Blatford.
Ah
je
ouais.
Je trouve qu'elle fait un excellent travail. Je sais pas si tu la connais, mais ses articles là, sont... Ouh.
Les quelques fois que je l'ai vu passer, ça m'avait pas ouais? venu me chercher.
Mais c'est-à-dire qu'elle prend des sujets quand même assez lourds, puis elle les décortique d'une façon que je trouve quand même très honnête intellectuellement. Je peux pas dire à propos de beaucoup d'autres journalistes. Mais enfin, bon... J'aimerais ça qu'on entende plus parler du Canada, ouais. parce que c'est notre pays. Hein? sinon, un autre sujet dont je suis un peu tanné, puis j'aimerais ça qu'on arrête d'en parler, mais évidemment, ça n'arrivera jamais, c'est juste le féminisme, de façon générale. Check bien ça, toi, le 8 mars, là, on va en avoir... Non, t'sais, autant pour le 19 novembre, il n'y a rien eu. Là. Nulle part, on a mentionné la Journée internationale de l'homme. Autant, c'est comme si c'était le 8 mars à l'année. Tous les jours, on parle des droits féminins. Puis, il n'y a rien de mal à ça en soi. Non. C'est juste que c'est comment disproportionné.
Ouais.
Et le 8 mars, là, checkez bien ça, la série documentaire à tous les jours, dans tous les quotidiens, ils vont sortir des dizaines d'articles.
Partout dans le monde.
Oh, oui, ça va être quelque chose.
Partout
là.
Dans le monde.
Et nous aussi, on va faire de quoi pour le 8 mars? On va peut-être parler de sujets, du moins de problèmes féminins différents.
Ouais. On vous parlera pas du cancer du sein puis de l'équité salariale. Ça, c'est garanti.
Non, effectivement.
Si on vous parle d'équité salariale, ben, ça sera pour vous dire qu'il n'y en a pas de problème!
Pas mal. En substance, c'est pas mal ça.
C'est pas mal ça.
Sinon, une autre affaire dont je suis tanné, après les élections à Montréal, là, le sourire de Valérie Plante, on peut-tu en revenir?
Ça, là.
En 2000, t'sais, c'était drôle au début parce que c'est vrai qu'elle souriait davantage qu'une personne moyenne, mais en quelque part, on va comme pas y reprocher d'être heureuse. Si vous n'êtes pas d'accord avec ses politiques, attaquez sa politique. Faites pas des ad hominem contre sa personne. Hein, ça vous fait juste avoir l'air cave.
Ouais, ouais.
Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec elle, dites pourquoi, proposez une solution, soyez constructif, engagez le débat.
Comme on l'a fait à plusieurs reprises.
D'ailleurs. Arrêtez de parler de son sourire. Ouais. Ça sert à rien. C'est pas productif. Puis les médias reviennent tout le temps avec ça.
Ça, là, les féministes... Vous voulez de quoi chialer, les féministes? Chialer pour ça, OK? Parce que ça, selon moi, c'est une façon d'abaisser la femme, OK? Pas vrai qu'on va parler du sourire de Denis Coderre, OK? T'sais, même on ignore carrément le fait qu'il ressemble à un gros taouin malgré tout ce qui se passe. Mais Valérie Plante, on parle de son sourire, puis comment elle a l'air heureuse, puis comme... C'est pas normal. C'est pas normal qu'on parle de politiciens de cette façon-là. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas. Puis encore une fois, ça revient à l'éthique journalistique. Ils ont le choix, là. Ils sont pas obligés d'en parler aux nouvelles ou d'en parler dans leurs articles, mais ils en parlent pareil.
Ouais, puis là, c'est de savoir est-ce que c'est la poule ou l'œuf. Est-ce qu'ils en parlent parce qu'ils savent que ce que les gens veulent entendre ou les. Qu'elle arrive en premier? Mais si on reste sur la question de Montréal, je vois ça arriver depuis quelques mois, quelques années. Plusieurs politiciens commencent leur discours en disant que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Puis, celle-là, je trouve qu'elle est indure à avaler.
Ça a apparu, ça, tout d'un coup.
Oui.
C'est vraiment bizarre. Moi, ça fait 21 ans plus là, que j'habite à Montréal, puis c'est juste dans les derniers mois, tout d'un coup, j'entends parler à tous les deux minutes que Montréal est un territoire autochtone non cédé. Je sais pas d'où ça
vient. On peut-tu prendre un break avec ça? D'un, il y a aucun consensus du côté des historiens qu'il y a un case à faire que Montréal est un territoire autochtone non cédé. C'est quelque chose de discutable. Évidemment, les Autochtones mettent leur position de l'avant, mais ils n'ont pas la vérité infuse. Puis honnêtement, je n'ai pas à me sentir honteux ou à m'excuser que Montréal soit devenu une métropole de calibre mondial. Parce que autrement, là, si je me trompe pas, après avoir lu quelques historiens, Montréal, c'est un comme c'était au confluent de plusieurs cours d'eau, ben, les différentes tribus se ramassaient ici pour faire du commerce ou signer des traités. Mais il y avait aucun projet à long terme pour Montréal parce que c'était trop froid ici. Souvent, les Autochtones descendaient au sud durant l'hiver. Sur ça, je comprends le mouvement de réconciliation avec les Autochtones. Je suis pour en grande partie, parce que c'est vrai qu'il y a eu des abus à l'égard de leur communauté, mais je pense pas que c'est en réécrivant le passé qu'on va y arriver. Montréal est une belle ville. On va quand même pas s'excuser d'être là, alors que ça fait des centaines d'années qu'on est ici. Je vais pas assumer les crimes de mes ancêtres. De la même façon qu'aux États-Unis, c'est aberrant de reprocher aux Américains d'aujourd'hui la guerre de sécession. Ils n'ont rien à voir avec ça. Jugeons les gens en fonction de leurs actions puis de leurs valeurs, puis on s'arrête là. Montréal, donc, moi, j'aimerais ça que les politiciens prennent ça mollo en 2018 avec Montréal est un territoire autochtone non cédé. Parce que honnêtement, j'ai l'impression que c'est plus une question de se positionner de façon vertueuse dans l'espace public puis de faire une forme de statement politique que quelque chose qui a véritablement de valeur légale. Fait qu'ultimement, si ça n'a pas de valeur légale, t'sais, en quelque part, on s'en fout, ça sert à rien. C'est juste... Non, c'est ça. C'est juste pour un peu... Je suis un peu trompeur, en fait.
Oh oui, mais ça l'est, clairement. Clairement.
Sinon, un sujet dont j'aimerais voir abordé, mais différemment. Les paradis fiscaux. À chaque fois que ça sort, là, que, chaque fois là, qu'il y a des WikiLeaks avec des compagnies ou des individus célèbres, là, ils sortent une liste, là, puis il y a les journalistes qui passent leur soirée là-dessus à faire des contrôles F avec des noms de Canadiens et de célébrités.
Ouais, c'est vraiment ça.
Puis, là, ils ont tombé sur Emma Watson, l'actrice qui faisait Hermione, puis Hermione est une voleuse. Puis, non, tout ça
c'est
illégal.
C'est pas une voleuse.
Tout ça illégal.
Mais c'est ça la grosse incompréhension. Les gens, on peut se poser des questions de point de vue éthique, mais de l'autre côté, là, c'est qui parmi nous qui paye de l'impôt quand il n'y a pas de besoin? Que le premier se lève. Parce que là, on est en plein dans cette période-là.
Oui,
là.
Oui.
S'il y en a un de vous autres qui passe pas son temps avec son comptable ou par lui-même à la maison à aller chercher chaque scène dans chaque loophole qu'il y a pour aller réduire sa charge fiscale, ben écoute, on le fait tout. On le fait tout. Il n'y a personne qui aime ça payer de l'impôt. Ben ça donne que quand tu es multimillionnaire, ben il y a une autre, il y a tout un set de règlements qui te permet de les mettre ton argent ici puis mettre ton argent là. C'est juste mais de c'est, même que ça marche.
C'est des mécanismes de transfert fiscaux qui sont issus d'ententes multilatérales entre les pays pour pas que les revenus soient imposés deux fois. Bon, c'est très complexe tout ça, mais le point c'est que n'importe qui peut le faire. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a le budget pour mettre en place ces affaires-là.
Exactement.
Fait que c'est pas une question de discrimination ou quoi que ce soit de genre. C'est juste qu'en bas d'un certain montant de valeur,
ça
vaut pas la peine. Puis, comme je te dis, on est en période des impôts qui s'en vient. Moi, j'en fais des préparations d'impôts. Et effectivement, le monde déteste payer de l'impôt.
Ben, c'est clair. Puis là, après ça, on se vire de bord. Puis on chiale après les riches parce qu'ils veulent pas payer d'impôts eux autres non plus. OK. Moi, je sais que si j'avais des millions de dollars de revenus, là, puis qu'il fallait que j'en paye 2 millions ou 3 millions ou 4 millions au gouvernement, là, hostie que ça me ferait chier, moi aussi. Là. C'est pour ça que je trouve qu'on est hypocrite un peu en tant que société par rapport à ça.
C'est l'essence de toute la polémique autour de Bill Morneau, le ministre des Finances du Canada.
Give me a break.
C'est un peu le même genre d'histoire. Lui, par contre, c'est un peu différent parce que c'est une société en fiducie. Bon, c'est un... Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais en somme, s'il y a des paradis fiscaux, et j'aimerais que les journalistes en 2018 mentionnent cette information-là, s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il existe des enfers fiscaux.
Oui, exactement.
Et la seule raison...
On est dedans, là. On a les deux pieds bien dedans.
La seule raison pour laquelle les gouvernements ont pu avoir des niveaux de taxation si élevés depuis les années 60, c'est parce que l'argent était physique. Sortir une mallette de cash des années 60 pour aller l'amener à un autre pays, c'était pas facile à faire. Aujourd'hui, là, c'est des clics sur un ordinateur.
Bitcoin, my friend.
Les gouvernements sont en compétition avec le monde entier et le service qu'ils vendent, c'est de la taxation. Alors les gens, comme je le dis souvent, comme ils magasinent leur chop de porc à l'épicerie, vont magasiner leur situation fiscale. Et s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. En somme, on peut-tu parler de la courbe de Nash? C'est un économiste des années 70 qui a déterminé une courbe qui maximise les revenus fiscaux de l'État. Et le point, l'optimum, le dessus de cette courbe-là qui maximise les revenus, est calculé à chaque 10 ans. La dernière fois que ça a été fait, c'était dans l'administration Obama. Et c'est autour de 30-35%. depuis aussi longtemps qu'on le calcule, ça tourne toujours autour de ça. Dès que vous êtes en haut, hein, dès que l'État cherche plus que 30-35%, ça donne un incitatif suffisant aux gens pour mettre en place des stratégies d'épargne fiscale, ce qui réduit les revenus fiscaux tout autour de l'État. Alors, peux-tu imaginer ça, là? On peut démontrer mathématiquement qu'en réduisant l'impôt, on augmente les revenus fiscaux de l'État. Fait que là, c'est la question que je pose à beaucoup de mes amis. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Augmenter les revenus de l'État ou faire chier les riches? Et j'ai souvent la réponse, faire chier les riches.
Ben oui.
Ce qui me désole au plus haut point, parce que...
Ça, c'est du mépris et de la jalousie, là. C'est tout ce que c'est. Là.
C'est comme si tu disais aux gens, travaille fort, tu vas pouvoir donner 50% de tes revenus au gouvernement.
Carlisse.
Mais tout ce débat-là, j'aimerais ça que les journalistes le contextualisent de façon plus appropriée dans le grand ensemble des incitatifs que les individus ont d'améliorer leur situation et celle de leur famille. Parce qu'on s'entend que c'est leur argent. Hein, c'est à eux. Et le gouvernement vient en prendre une ponction qui varie selon le pays. Si les gens ont le choix de payer 78% de taux marginal ou 10, comme en Irlande, par exemple. Oh, ben, où est-ce qu'ils vont aller, vous pensez?
Ben oui, tu t'en vas en Irlande.
Ou
tu
préfères avoir une plus petite portion d'une bien grosse tarte qu'une grosse portion d'une mini-paille du Saint-Hubert.
Mm-hmm.
Les petites mini-pailles sont bien bonnes. Les mini-tourtières, je sais pas si t'as essayé. Ben bon. Le festin des fêtes, là.
Yum, yum.
Durant ma fin de session, là, le festin des fêtes, ça m'a bien aidé parce que j'avais pas le temps de cuisiner. Toujours est-il que l'actualité financière et économique est tellement bâclée. Et ça donne une idée à la population qui est pas nécessairement fausse, mais qui est tout le moins incomplète. Et ça fait ensuite ça fait en sorte que la conversation n'est pas de qualité. J'aimerais ça qu'on puisse parler de l'argent sans qu'il y ait toujours l'espèce de culpabilité qui vient nous rechercher en arrière, là. Comme si les gens devaient s'excuser d'avoir du succès. Hein?
Bon. Mais ça, encore une fois, c'est éthique et intégrité journalistique. Tu sais, quand ils présentent ces faits-là, ils devraient aller avoir une explication qui va avec. Mais non, on préfère rendre les gens, tu sais, les mettre en furie parce que ça fait réagir, ça génère des clics, des shares, des likes, ou des petits bonhommes avec des faces enragées. Puis ça, on aime ça.
Ça, on disait, je pense que c'était notre premier épisode sur la parade de la Saint-Jean.
Oui.
On avait mentionné quelques statistiques sur les revenus des médias, ou du moins leur chute libre depuis 10 ans. Les médias n'ont jamais réussi à compenser les pertes publicitaires.
Ils sont désespérés.
Ils n'ont jamais réussi à compenser les pertes de revenus générées par les médias traditionnels dans les médias numériques. Ils n'ont jamais réussi à compenser. Ils sont vraiment à sec. Ils ont très peu de marge de manœuvre financière et malheureusement, c'est la qualité de l'information qui y passe. Ça va sans doute un sujet qu'on pourra aborder, mais aujourd'hui, on est quoi? On enregistre le 30. C'est la dernière presse papier.
Eh, hey, ben oui.
Il n'aura plus après ça. Puis là, il y a tout un débat à savoir, est-ce que l'État devrait subventionner la presse papier?
Non!
Hein? On en reviendra.
Non!
Tu sais, c'est toutes des questions qu'on peut se poser, dont on peut débattre. Et c'est important qu'on respecte les idées pour leurs valeurs propres.
Ouais.
Et surtout, ça c'est sans doute une des affaires que je veux plus entendre en 2018, de présumer de la position idéologique des gens en fonction de leur étiquette identitaire. De dire, parce qu'une personne est homosexuelle, trans, peu importe, elle vote automatiquement à Québec solidaire. C'est une espèce de raccourci de lumper les gens ensemble.
Je te garantis que c'est pas ça.
Non, je sais. Et surtout quand j'entends les représentants de divers groupes.
C'est quoi ma favorite là-dedans? C'est quand les Québécois francophones séparatistes accusent les Anglais ou les anglophones de voter libéral. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que j'en connais qui votent pas libéral. J'en connais même qui votent Québec solidaire. Fait que
oui, les gens ont des idées qui sont pas nécessairement accrochées.
C'est des préjugés. Ça, c'est des vrais préjugés.
Oui. Et surtout, les représentants des groupes de pression, des groupes d'activistes, j'ai un message pour vous, là. Vous ne représentez pas vos membres à moins d'être élus par l'ensemble d'eux autres. Tout ce que vous pouvez dire, c'est que vous représentez une organisation qui a des positions particulières, mais vous n'êtes pas le porte-étendard, là, de l'ensemble, par exemple, d'un groupe minoritaire quelconque.
C'est juste ceux-là qui chialent le plus fort. C'est tout.
Et j'aimerais ça que les médias leur accordent un poids proportionnel à leur importance, c'est-à-dire très minime. Mais c'est pas parce qu'un groupe, mettons, les Black Lives Matter, crie bien fort, qui représente tous les Noirs aux États-Unis. C'est clairement, il y en a qui sont contre eux autres. Et, Et c'est tellement réducteur de présumer qu'une personne entretient une position ou des valeurs particulières sous prétexte qu'elle appartient à un groupe identitaire donné. C'est tellement réducteur. Moi, ça m'insulte quand on fait ça. Ouvrons le débat. Permettons aux gens d'aller donner le fond de leur pensée, puis d'aller vraiment loin dans le fond de leur pensée, parce qu'autrement, on ne va jamais arriver à aller au fond d'une question. Nous, sur notre page Facebook, là, si vous venez jaser avec nous, on ne supprime rien. On avait même notre bon ami Luc Leclerc, là, s'il nous écoute toujours. on aimait bien ça. Mais lui, il nous arrivait avec des théories de conspiration hallucinantes. Jamais on a supprimé ça.
Non,
jamais.
En fait, on a toujours respecté ses opinions, puis on a même discuté à plusieurs reprises avec lui, même si on n'est pas souvent d'accord avec ce qu'il dit.
J'en ai pas
dit. Un quote direct de notre page Facebook de Pierre Mac Boyer. La science et les faits sont des légendes urbaines pour la gauche radicale. c'est vraiment clair. On va discuter de tout.
Oui. L'important, c'est que les gens puissent aller au fond de leur pensée, parce qu'autrement, c'est très frustrant. Si t'as toujours envie de dire de quoi, mais t'as jamais l'occasion de le faire, il y a quelque chose qui grandit en toi, puis à un moment donné, ben, tu sais, ça explose, puis c'est pas nécessairement beau.
Hein? Ouais.
C'est important de pouvoir évacuer la pression et un discours, une bonne conversation, là, ça calme bien du monde.
Ouais.
Autrement, ils seraient juste. Ils restent entre eux, là, ça pourrit là, puis à un moment donné, ça tombe au grand jour, puis c'est irrécupérable. Alors que si on peut. Au fil du temps, engager la conversation honnêtement, malheureusement, la presse médiatique, les médias traditionnels, ont bien la misère à remplir cette fonction-là. Puis Facebook, c'est bien un des pires endroits pour avoir une conversation.
Tellement.
C'est tellement difficile. Les universités auraient dû avoir ce rôle-là, mais quand on regarde l'organisme FIRE, qui compile les désinvitations de conférenciers dans les campus universitaires américains, ça s'accroît avec les années. C'est très préoccupant. Les conférenciers, c'est du monde qui vient exprimer une position, puis les gens ont l'occasion d'aller challenger cette position-là. Puis ça se fait juste plus maintenant, c'est trop controversé. Ah, mais bon. 2018 va être une année quand même assez mouvementée, je pense.
Ouais, je pense qu'on va s'amuser encore à chialer l'année prochaine. Et informer le peuple pour qu'ils puissent chialer eux aussi. Bon, mais sur ça, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs. Oubliez pas, si vous avez des souhaits pour l'année 2018, vous pouvez les partager avec nous sur notre site web, québecquois.ca. Ça va nous faire plaisir de lire vos messages là-dessus. Ou si vous voulez nous laisser un petit message téléphonique, on a notre boîte vocale au 1-888-458-4443. 1-888-458-4443. Vous pouvez nous laisser vos petits messages là aussi. Si vous dites quelque chose d'intéressant, on pourra toujours le passer en ondes. Si vous ne voulez pas qu'on le passe en ondes, juste dites-le nous dans le message et on vous respectera vos choix. Et on a aussi notre page Facebook qui est facebook.com/québecquoibalado. Et vous pouvez nous parler là, nous donner vos opinions, envoyer des messages, cliquer like, cliquer share, cliquer petite face enragée. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. Fait que, mesdames et messieurs, on vous laisse encore sur la magnifique toune, Melinda Kathleen Reese, encore. Donc, enjoy. À la semaine prochaine, ou à la prochaine fois, Charles.
Oui, à la prochaine fois. Ah oui, petite parenthèse. Je me suis trompé, c'est pas Nash, c'est Laffer.
Laffer! Ouais, ah, Laffer. Okay, there we go. La courbe de Laffer.
Ouais.
Inequality, governmental hypocrisy, bureaucracy, anarchy, mediocrity.
Global poverty rates lower than ever,
but they they may soon rise again, for all we know,
for all we know.
Creators make us smile by making YouTube content, but now their internet will soon be too slow.
Up 2018.